France Inter.
Le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Les européennes, meeting de campagne LFI hier soir à Roubaix, en présence de Jean-Luc Mélenchon, où il a balayé les accusations d'antisémitisme quelques heures après l'interdiction par l'Université de Lille d'accueillir la conférence sur la Palestine qui doit se tenir ce soir. Une autre salle d'ailleurs a été retenue. Deux mineurs de 14 et 15 ans en garde à vue après le décès d'un homme de 22 ans, victime d'une très violente agression dans la nuit de lundi à mardi à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Le ras-le-bol de l'Espagne face à l'afflux de vacanciers. Rentrez chez vous. L'Espagne, en proie au surtourisme, multiplie les mesures pour limiter les visiteurs. Le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions de football en battant Arsenal 1-0. Et le Real Madrid obtient aussi son ticket et élimine Manchester City.
France Inter.
Il y aura bien une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine ce soir à Lille. LFI a trouvé une autre salle après l'annulation de celle prévue à l'université car les conditions pour garantir la sérénité des débats ne sont plus réunies, dit la présidence. En attendant, Jean-Luc Mélenchon était hier soir en meeting à Roubaix avec Rima Hassan, la juriste franco-palestinienne. Et à cette occasion, Elia Bergel, la décision de l'université de Lille a été vivement critiquée.
À peine arrivé sur l'estrade, Jean-Luc Mélenchon règle ses comptes avec ceux qui ont obtenu l'annulation de sa conférence.
Tu es bête, tu es borné, tu es obtus.
Coup de griffe à Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France.
Tu dis n'importe quoi.
Jean-Luc Mélenchon dénonce la malhonnêteté des attaques contre lui.
Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous n'avions pas prévu, Rima et moi, de faire une conférence qui fut une conférence raciste.
Rima Hassan, la juriste d'origine palestinienne, candidate aux européennes, y voit une censure intolérable.
Je suis outrée, moi j'ai eu l'occasion de le dire. Ce qui me dérange, c'est les pressions qui ont été exercées pour l'annulation de cette conférence. Je trouve ça vraiment déjà ridicule, assez pathétique.
Pathétique et incompréhensible pour ces militants croisés au meeting des Insoumis de Roubaix.
Ça a toujours été un endroit où on pouvait se politiser à la fac.
Alors on va interdire tous les politiques dorénavant dans les facs. À Sciences Po, ils ne vont plus pouvoir venir. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est n'importe quoi, c'est totalement ridicule.
Il y a pour eux une volonté de faire taire les voix pro-palestiniennes en France. Après Rennes et Bordeaux, l'université de Lille est la troisième à annuler une conférence de Jean-Luc Mélenchon.
Élie Abergel, un couvre-feu de 2 mois pour les mineurs à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement aux Antilles dans un contexte de violence et de lutte contre la drogue. Ce couvre-feu de 20h à 5h du matin doit démarrer en début de semaine prochaine. La violence des mineurs, un sujet sur lequel d'ailleurs Emmanuel Macron a demandé hier à son Premier ministre Gabriel Attal de lancer dès aujourd'hui une grande concertation.
Eux aussi, ils sont mineurs. Ils ont 14 et 15 ans dans le département du Nord. Deux adolescents sont en garde à vue après la mort d'un jeune de 22 ans.
Dans la nuit de lundi à mardi à Grande-Synthe, près de Dunkerque, Philippe, ancien animateur dans le centre de loisirs de la ville, a été passé à tabac alors qu'il rentrait chez lui. Transporté à l'hôpital, il est mort des suites de ses blessures. D'autres potentiels agresseurs sont toujours recherchés en attendant. Dans Alice Marot, c'est la consternation chez les habitants de Grande-Synthe.
Sur son balcon, Myriam est en larmes. C'est d'ici qu'elle avait l'habitude de saluer Philippe.
Comme il passait souvent ici, il disait bien bonjour. C'est un garçon très gentil. Je n'ai jamais rien fait, ce garçon. Il était honnête. Il parlait souvent avec mes petits-enfants. Franchement, c'est lamentable.
L'agression a été filmée, la vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Émilien, il a reconnu les rues où il passe tous les jours.
Quand même un peu stressé, parce qu'on se dit, on ne sait pas dans quelles circonstances il s'est fait attraper. Je me dis, ça aurait pu être moi qui sort le chien, ma femme qui va au travail, qui s'aurait fait attraper. Dans ces petits, on évite de sortir tard le soir.
Sur leur téléphone, d'autres riverains montrent les photos d'éventuels suspects, mais il ne faut pas céder à la panique et aux rumeurs, avertit le maire Martial Béillard.
On a vu qu'il y avait plein de scénarios différents, de rumeurs fondées, infondées, peu importe, mais moi je ne suis pas du genre à faire des conclusions hâtives. Aujourd'hui, c'est un drame qui s'est passé avec une violence inouïe. Il faut laisser le temps de l'enquête, il faut laisser sereinement la police faire son travail et qu'on puisse retrouver les auteurs très rapidement.
En attendant, les habitants ont déjà commencé à déposer des roses blanches là où le jeune homme a été retrouvé.
Alice Marot de France Bleu Nord. La douche froide pour les 87 salariés de l'entreprise de panneaux solaires Sistovi, placée en redressement judiciaire. L'entreprise, créée en 2008 à Carquefou près de Nantes, n'a pas trouvé de repreneur. La concurrence chinoise aura eu raison de son carnet de commandes. On en reparle dans le journal de 7h30. Et puis Biogarant, le numéro 1 français des médicaments génériques, filiale du géant pharmaceutique pharmaceutique Servier en passe de passer aux mains de l'Inde. La mise en vente du laboratoire de la santé au quotidien produit chaque année 350 millions de boîtes en France, dont l'amoxicilline. 4 repreneurs sont sur les rangs, dont 2 indiens. Et dans ce cas, rien n'obligerait un repreneur étranger à produire en France. Donc, il pourrait produire ailleurs. Au moins 17 morts dans une triple frappe russe hier à Tchernigiv, une grande ville du nord de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois mis en cause le manque d'aide des Occidentaux. Peut-être avez-vous prévu d'aller passer vos prochaines vacances en Espagne, mais sachez que les touristes étrangers ne sont pas accueillis à bras ouverts. Avec plus de 85 millions de visiteurs, l'Espagne est la seconde destination touristique mondiale après la France. Chiffre d'affaires qui pourrait dépasser cette année les 200 milliards d'euros. Mais dans le pays, la colère monte contre le surtourisme. C'est le ras-le-bol face à l'afflux de vacanciers dans un contexte de grave sécheresse, des populations hostiles aux touristes et qui le font savoir, Philippe Lefebvre.
Ça pue le touriste ou touriste rentre chez toi. Ces petits messages pas franchement accueillants ont fleuri ces derniers mois sur les portes de logements touristiques. À Malaga, Barcelone, aux Canaries ou aux Baléares, expression d'un ras-le-bol d'une partie de la population face à l'afflux de touristes et qui parle de l'engorgement des rues, de la pénurie de logements transformés en hébergement touristique ou encore, comme en Catalogne, de la trop grande consommation d'eau des hôtels dans une région qui doit faire face à une sécheresse historique. Dans certaines villes touristiques, des mesures ont été prises. À Saint-Sébastien, au Pays Basque, les visites guidées sont limitées à 25 personnes par groupe. À Séville, la municipalité envisage de faire payer aux touristes l'accès à la place d'Espagne. Et à Barcelone, des associations ont mis en place sur les plages des faux panneaux indiquant la présence de méduses dangereuses. Mais pas certain que cela fasse fuir les touristes, puisque le président de l'association des professionnels du tourisme espagnol évoquait ces derniers jours une hausse probable cette année de 8,6% du chiffre d'affaires touristique du pays, un tourisme qui représente 12,6% des emplois en Espagne.
Philippe Lefebvre, la production d'abricots menacée dans la Drôme et en Ardèche. Depuis 15 jours, les fruits tombent des arbres bien avant la récolte. Explication au pluriel, canicule de l'été, un hiver trop doux, un printemps trop arrosé, une multiplication d'aléas météo qui ont entraîné la chute des fruits pas mûr, et ça commence à devenir inquiétant, dit Christelle Cézanna, la présidente de la FDSEA Ardèche. Elle avance le chiffre de 80 à 100% de pertes sur certaines exploitations.
C'est le cas pour toute l'Ardèche, tout ce qui est bergeron et descendant de bergeron, où il y a une perte de 80 à 100% d'abricots. Dès début avril, même fin mars, on avait été alerté par le Sud qui nous disait qu'il y avait des grosses pertes, des chutes physiologiques d'abricots, qu'ils n'expliquaient pas. Mais c'est plusieurs facteurs, je pense, qu'on a eu un été très chaud, très sec, qui a pu y avoir donc sur une très longue période, qui ont fragilisé les arbres, et puis après, un excès d'eau subi, qui a asphyxier les racines et tout ça. Des phénomènes climatiques ou des phénomènes particuliers qui nettoient nos productions et qui nous affaiblissent.
La présidente de la FDSEA Ardèche au micro de Lisa Guinic de France Bleu Drôme Ardèche.
On connaît le dernier carré de la Ligue des champions de football.
Après PSG Dortmund, l'autre demi-finale opposera le Real Madrid au Bayern Munich. 1-0, le Bayern a obtenu son ticket hier soir à domicile face à Arsenal en quart de finale retour. Autre affiche de la soirée, le Real Madrid et Manchester City. Les deux équipes se sont partagé au tir au but après un nouveau match nul un partout. Le Real Madrid élimine ainsi le tenant du titre et poursuit sa folle histoire d'amour avec la compétition, Nicolas Perronnet.
Sur les 14 dernières Ligues des Champions, le Real Madrid a atteint 12 fois le dernier carré de la compétition. Une statistique insolente, de quoi rendre jaloux tous les clubs européens. La Maison Blanche jouera face au Bayern Munich, sa quatrième demi-finale consécutive, prenant au passage sa revanche sur Manchester City, qui lui avait ravi son trophée la saison dernière. Un Real immortel, désormais favori sur la route de Wembley, le grandiose théâtre de la finale. Le 1er juin, une route semée d'embûches, qui passera donc par la Bavière, mais suffisamment dégagée pour continuer d'alimenter le feuilleton, d'un côté comme de l'autre, d'une possible finale face au Paris Saint-Germain. On n'en est pas encore là, mais si ce scénario prend forme, on connaît déjà l'acteur principal, un certain Kylian Mbappé, qui jouerait alors son dernier match avec le maillot parisien face à son probable futur club.
Et puis ce soir, suite et fin des quarts de finale en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, Marseille accueille le Benfica Lisbonne, Lille, les Anglais d'Aston Villa. Les clubs français se sont inclinés 2-1 au match aller.
Laurence Thomas, à présent, sort les voiles dans Esprit Sport. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour.
Nouveau portrait d'athlète olympique aujourd'hui. C'est un marin, le breton Tim Mourniac, heureux de partager les JO en famille.
Oui, parce que les JO en famille, ça se produit souvent. Il y aura cet été les frères Lebrun en tennis de table, Alexis et Félix. Il y a eu la fratrie Manodou, Laure et Florent. Les frères Gilles en handball, Guillaume et Bertrand. Et donc aussi la famille Mourniac en voile avec Tim, le fils qui sera à la barre d'un Acra 17 du nom de cette catégorie de bateau, de ce catamaran équipé de foils sur chacune de ses coques, des lames qui permettent à partir d'une certaine vitesse de soulever le bateau et de limiter les frottements, de voler au-dessus de l'eau. Il choquera les voiles avec Lou Bertomio, aucun lien de parenté entre deux, mais leur entraîneur, à eux, c'est Jean-Christophe Mourniac, le père de Tim, ancien marin lui aussi, et Philippe Mourniac, l'oncle de Tim, directeur de l'équipe de France de voile olympique, qui ne sera jamais très loin sur le quai. Les Jeux de Paris 2024, c'est devenu une histoire, un rêve de famille pour les Mourniac.
C'est quand même exceptionnel de pouvoir partager ça avec eux, d'autant plus que, en tant qu'athlète, ils n'ont pas réussi à sélectionner alors qu'ils avaient, fait des performances formidables. Donc, de parachever un peu ce qu'ils ont commencé il y a 20 ans en arrière, c'est top. Et qu'ils soient là avec moi, c'est encore plus génial.
Tim Mourniac et Lou Bertomieu dans le Mistral marseillais font équipe depuis 3 ans et les championnats du monde 2021. Mais Lou s'est blessé au genou. Après 6 mois de rééducation, le duo s'est retrouvé récemment pour la reprise des compétitions et ils s'entraînent dur, presque tous les jours à Marseille, pour être prêts pour les Jeux, entourés de la famille Mourniac.
Et c'est à Marseille, en effet, que les épreuves de voile auront lieu dans la marina du Roucas Blanc. Nous serons sur place à 7h15 pour le Zoom de France Inter. Bonne journée Guillaume Batin.
Merci.